Grand 2. Paris armé était le seul obstacle sérieux sur la route du complot contre-révolutionnaire. Paris devait donc être désarmé. Sur ce point, l'Assemblée de Bordeaux était la sincérité même. Si la rugissante clameur de ces ruraux n'avait pas suffi à se faire entendre, la reddition de Paris par tiers, à la tendre discrétion du triumvirat de Vinoy, le décembriseur, de Valentin, le gendarme bonapartiste, et d'Aurel de Paladine, le général jésuite, aurait dissipé jusqu'au dernier semblant de doute. Alors même qu'ils affichaient d'une façon insultante le véritable but du désarmement de Paris, les conspirateurs lui demandèrent de déposer les armes, sous un prétexte qui était le plus aveuglant, le plus effronté des mensonges. L'artillerie de la garde nationale de Paris, disait Thiers, appartenait à l'État, et c'est à l'État qu'elle doit faire retour. Voici les faits. Du jour même de la capitulation, par laquelle les prisonniers de Bismarck avaient signé la reddition de la France, mais s'étaient réservés un corps de garde nombreux dans le dessein express d'intimider Paris, Paris se tenait sur le qui-vive. La garde nationale s'était réorganisée et avait confié son contrôle suprême à un comité central élu par l'ensemble du corps, à l'exception de quelques débris de l'ancienne formation bonapartiste. À la veille de l'entrée des Prussiens dans Paris, le comité central prit des mesures pour le transport à Montmartre, Belleville et la Villette des canons et mitrailleuses traîtreusement abandonnés par les capitulants dans les quartiers et leurs abords que les Prussiens allaient occuper. Cette artillerie provenait des souscriptions de la garde nationale. Elle avait été officiellement reconnue comme sa propriété privée dans la capitulation du 28 janvier. Et à ce même titre, elle avait été exemptée de la reddition générale, entre les mains du vainqueur, des armes appartenant au gouvernement. Et Thiers était si entièrement dépourvu de tout prétexte, si léger fut-il, pour engager la guerre contre Paris, qu'il lui fallut recourir au flagrant mensonge suivant lequel l'artillerie de la garde nationale était propriété d'État. La saisie de son artillerie ne devait évidemment que servir de préliminaire au désarmement général de Paris et, donc, de la révolution du 4 septembre. Mais cette révolution était devenue le régime légal de la France. La République, son œuvre, était ratifiée par le vainqueur dans les termes de la capitulation. Après la capitulation, elle avait été reconnue par toutes les puissances étrangères et c'est en son nom que l'Assemblée nationale avait été convoquée. La révolution des travailleurs de Paris du 4 septembre était le seul titre légal de l'Assemblée nationale siégeant à Bordeaux et de son exécutif. Sans lui, l'Assemblée nationale aurait dû, sur le champ, laisser place au corps législatif élu en 1869 au suffrage universel sous un gouvernement français et non prussien et dispersé de force par le bras de la Révolution. Thiers et ses « élargis » entre guillemets auraient dû capituler afin d'obtenir des sauf-conduits signés de Louis Bonaparte pour s'épargner un voyage à Cayenne. L'Assemblée nationale, avec son pouvoir notarial de fixer les termes de la paix avec la Prusse, n'était qu'un incident de cette révolution, dont la véritable incarnation était toujours le Paris armé qui l'avait entreprise, qui avait subi pour elle un siège de 5 mois, avec les horreurs de la famine, et qui, en dépit du plan de Trochu, avait prolongé sa résistance, base d'une guerre de défense obstinée en province. Et Paris, maintenant, avait ou à déposer les armes au commandement injurieux des négriers rebelles de Bordeaux et à reconnaître que sa révolution du 4 septembre ne signifiait rien qu'un simple transfert de pouvoir de Louis Bonaparte à ses rivaux royaux, ou bien à être prêt au sacrifice comme champion de la France, qu'il était impossible de sauver de la ruine et de régénérer, sans un renversement révolutionnaire des conditions politiques et sociales qui avaient engendré le Second Empire et qui, sous sa vigilance nourricière, avaient mûri jusqu'à complète pourriture. Paris, émacié par une famine de 5 mois, n'hésita pas un moment. Il résolut de courir tous les hasards d'une résistance aux conspirateurs français, même avec le canon prussien qui le dévisageait du haut de ses propres forts. Toutefois, dans sa répugnance de la guerre civile, dans laquelle Paris allait être entraîné, le comité central continua à se maintenir dans une attitude purement défensive, en dépit des provocations de l'Assemblée, des usurpations de l'exécutif et d'une menaçante concentration de troupes dans Paris et ses environs. C'est Thiers qui ouvrit la guerre civile en envoyant Vinoy à la tête d'une multitude de sergents de ville et de quelques régiments de ligne en expédition nocturne contre Montmartre pour y saisir par surprise l'artillerie de la garde nationale. On sait, du reste, comment cette tentative vint se briser devant la résistance de la garde nationale et la fraternisation de la ligne avec le peuple. Dorel de Paladine avait imprimé d'avance son bulletin de victoire et Thiers tenait prête les affiches annonçant ses mesures de coup d'État. Voilà que tout ça devait être remplacé par des appels de Thiers, faisant part de sa résolution magnanime de laisser la garde nationale en possession de ses armes, avec lesquelles, disait-il, il se tenait pour certain qu'elle se rallierait autour du gouvernement contre les rebelles. Sur les 300 000 gardes nationaux, 300 seulement répondirent à ces sommations de se rallier autour du petit Thiers contre eux-mêmes. La glorieuse révolution des ouvriers du 18 mars établit sa domination incontestée sur Paris. Le comité central fut son gouvernement provisoire. L'Europe semblait pour un moment douter si ces récentes et sensationnelles représentations dans la politique et la guerre avaient en elles-mêmes l'ombre d'une réalité, ou si elles n'étaient que les rêves d'un passé depuis longtemps évanoui. Du 18 mars à l'entrée des troupes de Versailles à Paris, la révolution prolétarienne resta si exempte des actes de violence qui abondent dans les révolutions, et bien plus encore dans les contre-révolutions, des « classes supérieures » entre guillemets, qu'aucun fait ne permit à ses adversaires de lui hurler après, si ce n'est l'exécution des généraux Lecomte et Clément Thomas et l'affaire de la place Vendôme. L'un des officiers bonapartistes engagés dans l'attaque nocturne contre Montmartre, le général Lecomte, avait par 4 fois ordonné au 81e régiment de ligne de faire feu sur un public sans armes, place Pigalle, et, sur le refus de ses hommes, les avait férocement insultés. Au lieu de fusiller femmes et enfants, ses propres hommes le fusillèrent, lui. Les habitudes invétérées acquises par la soldatesque à l'école des ennemis de la classe ouvrière ne vont pas, sans doute, changer à l'instant même où ces soldats changent de côté. Les mêmes hommes exécutèrent Clément Thomas. Le « général » entre guillemets, Clément Thomas, un maréchal des logis mécontent, s'était, dans les derniers temps du règne de Louis-Philippe, enrôlé au bureau du journal républicain, le National, pour y servir en la double qualité d'homme de paille, gérant responsable, entre parenthèses, et de matamor duelliste pour ce journal très batailleur. Après la révolution de février, les hommes du National, ayant accédé au pouvoir, métamorphosèrent cet ancien maréchal des logis en général, à la veille de la boucherie de juin, dont, comme Jules Favre, il fut un des sinistres conjurés et dont il devint un des plus lâches exécuteurs. Puis, lui et son généralat disparurent pour longtemps, pour revenir sur l'eau le 1er novembre 1870. La veille, note de bas de page, le 31 octobre 1870, une tentative fut faite pour renverser le gouvernement de la Défense nationale et s'emparer du pouvoir. L'impulsion fut donnée au mouvement par les bruits d'armistice avec les Prussiens, de défaite de la garde nationale au Bourget, 30 octobre entre parenthèses, et de reddition de Metz. Guidés par les blanquistes, les gardes nationaux envahirent l'hôtel de ville, proclamèrent la destitution de l'ancien gouvernement et la formation d'un nouveau qui devait organiser les élections à la commune. Mais le nouveau gouvernement, qui ne s'appuyait pas sur les grandes masses, se montra irrésolu et hésitant. Il entra en pourparlers avec les membres arrêtés du gouvernement de la Défense nationale et en obtint un accord verbal pour la fixation des élections à la commune au 1er novembre, entre parenthèses, et pour une amnistie générale. Sur ces entrefaites, des bataillons de gardes bourgeois arrivèrent qui, au matin du 1er novembre, envahirent l'hôtel de ville et rétablirent le pouvoir du gouvernement de la Défense nationale. Fin de la note de bas de page. Le général Clément Thomas et son généralat disparurent pour longtemps pour revenir sur l'eau le 1er novembre 1870. La veille, le gouvernement de la Défense, fait prisonnier à l'hôtel de ville, avait solennellement donné sa parole à Blanqui, à Flourens et aux autres représentants de la classe ouvrière d'abdiquer son pouvoir usurpé entre les mains d'une commune qui serait librement élue à Paris. Au lieu de tenir leur promesse, ils lâchèrent sur Paris les Bretons de Trochu qui remplaçaient alors les Corses de Bonaparte. Le général Tamisier, seul, refusant de souiller son nom par un tel parjure, se démit du commandement en chef de la garde nationale et, à sa place, Clément Thomas redevint pour un coup général. Pendant toute la durée de son commandement, il fit la guerre non aux Prussiens, mais à la garde nationale de Paris. Il en empêcha l'armement total, travailla les bataillons bourgeois contre les bataillons ouvriers, en extirpa les officiers hostiles au plan entre guillemets de Trochu, et licencia avec un stigmate de lâcheté justement ces mêmes bataillons prolétariens dont l'héroïsme a maintenant étonné leurs ennemis les plus invétérés. Clément Thomas se sentait tout fier d'avoir reconquis ses galons de juin 1848 comme ennemi personnel de la classe ouvrière de Paris. Ce n'est que quelques jours avant le 18 mars qu'il exposait au ministère de la Guerre, le Flot, un plan de son cru pour, ouvrez les guillemets, en finir avec la fine fleur de la canaille de Paris, fermez les guillemets. Après la déroute de Vinoy, il lui fallait paraître sur la scène de l'action en qualité d'espion amateur. Le comité central et les travailleurs de Paris furent tout aussi responsables du meurtre de Clément Thomas et le comte que la princesse de Galles du sort des gens écrasés le jour de son entrée à Londres. Le massacre de citoyens sans armes, place Vendôme, est un mythe que M. Thiers et les ruraux ont ignoré avec persistance à l'Assemblée, s'en remettant pour sa propagation exclusivement à la valetaille du journalisme européen. Les « hommes d'ordre », entre guillemets, les réactionnaires de Paris, tremblèrent à la victoire du 18 mars. Pour eux, c'était le signal de la justice populaire qui arrivait enfin. Les spectres de leurs victimes, assassinés sur leurs ordres depuis les jours de juin 1848 jusqu'au 22 janvier 1871, note de bas de page, le 22 janvier 1871, une nouvelle tentative fut faite pour renverser le gouvernement de la Défense nationale. La cause immédiate du soulèvement fut la défaite infligée à la garde nationale sous Buzenwald, ouvrez la parenthèse, 19 janvier 1871, fermez la parenthèse. À la suite de cette défaite, des bruits coururent sur l'armistice prochain et la nomination du général Vinoy comme gouverneur militaire de Paris. De même que l'insurrection du 31 octobre, Le soulèvement du 22 janvier se distingua par le manque de résolution, de cohésion et de liaison organique avec les masses. Pendant la répression du mouvement, il y eut 30 morts et blessés, parmi lesquels des femmes et des enfants. Fin de la note de bas de page. Les spectres de leurs victimes, assassinées sur leurs ordres depuis les jours de juin 1848 jusqu'au 22 janvier 1871, se dressaient devant eux. Leur panique fut leur seule punition. Même les sergents de ville, au lieu d'être désarmés et mis sous les verrous, comme on aurait dû faire, trouvèrent les portes de Paris grandes ouvertes pour leur tranquille retraite sur Versailles. Les hommes d'ordre non seulement ne furent pas molestés, mais eurent la faculté de se rallier et de s'emparer paisiblement de plus d'une position forte au centre même de Paris. Cette indulgence du comité central, cette magnanimité des ouvriers armés, si étrangement en désaccord avec les habitudes du « parti de l'ordre », entre guillemets, celui-ci les interpréta à tort comme de purs symptômes d'une faiblesse consciente. D'où leur plan stupide d'essayer, sous le couvert d'une manifestation sans armes, ce que Vinoy avait failli exécuter avec ses canons et ses mitrailleuses. Le 22 mars, une tourbe séditieuse d'élégants partit des quartiers du luxe avec tous les petits crevés dans leurs rangs et à leur tête les familiers notoires de l'Empire, les Hecqueren, les Coët Logon, les Henri de Penn, etc. Sous le lâche prétexte d'une manifestation pacifique, cette racaille, secrètement porteuse des armes du bravo, formée en ordre de marche, maltraita et désarma les patrouilles isolées et les sentinelles de la garde nationale avec lesquelles elle se rencontra dans sa marche, et, au débouché de la rue de la Paix, au cri de « ouvrez les guillemets »« À bas le comité central, à bas les assassins, vive l'Assemblée nationale », fermez les guillemets, elle tenta d'enfoncer le cordon qui y était placé et ainsi d'emporter par surprise le quartier général de la garde nationale, place Vendôme. En réponse à ces coups de revolver, les sommations régulières, ouvrez la parenthèse, c'est en France l'équivalent de la lecture du Riot Act en Angleterre, fermez la parenthèse, furent faites et, comme elles se montraient sans effet, le général de la garde nationale commanda le feu. Une seule salve dispersa, en une fuite affolée, les stupides freluquets qui espéraient que la simple exhibition de leur « honorabilité » entre guillemets aurait le même effet sur la Révolution de Paris que les trompettes de Josué sur les murs de Jéricho. Les fuyards laissaient derrière eux deux gardes nationaux tués, 9 grièvement blessés, ouvrez la parenthèse, parmi lesquels un membre du comité central, fermez la parenthèse, et tout le théâtre de leurs exploits, jonché de revolvers, de poignards et de cannes à épée, en témoignage du caractère « sans armes » entre guillemets, de leur manifestation « pacifique » entre guillemets. Quand, le 13 juin 1849, la garde nationale avait fait une manifestation réellement pacifique pour protester contre la félonie de l'assaut donné à Rome par les troupes françaises, Changarnier, alors général du parti de l'ordre, fut acclamé par l'Assemblée nationale et particulièrement par M. Thiers comme le sauveur de la société pour avoir lancé ses troupes de tous côtés sur ces hommes sans armes avec l'ordre de les fusiller et de les sabrer et de les fouler sous les pieds de leurs chevaux. Paris, alors, fut mis en état de siège. Dufort fit dépêcher par l'Assemblée de nouvelles lois de répression, de nouvelles arrestations, de nouvelles proscriptions. Un nouveau règne de la terreur s'instaurait. Mais les basses classes s'y prennent autrement en ces matières. Le comité central de 1871 ignora simplement les héros de la « manifestation pacifique » entre guillemets, à tel point que seulement 2 jours après, ils furent en état de se rassembler sous les ordres de l'amiral Saisset pour cette démonstration armée que couronna la célèbre escampette à Versailles. Dans sa répugnance à poursuivre la guerre civile ouverte par Thiers avec sa tentative de brigandage contre Montmartre, le comité central se rendit cette fois coupable d'une erreur décisive en ne marchant pas aussitôt sur Versailles, alors entièrement sans défense, et en mettant ainsi fin au complot de Thiers et de ses ruraux. Au lieu de quoi, le parti de l'ordre eut encore la faculté d'essayer sa force aux urnes le 26 mars, jour de l'élection de la Commune. Alors, dans les mairies de Paris, ses membres échangèrent de douces paroles de conciliation avec leur trop généreux vainqueur, en grommelant du fond du cœur le serment de les exterminer en temps et lieu. Maintenant considérez le revers de la médaille. Thiers ouvrit sa seconde campagne contre Paris au commencement d'avril. Le premier convoi de prisonniers parisiens, amené à Versailles, fut soumis à des atrocités révoltantes. Tandis qu'Ernest Picard, les mains dans les poches, rôdaillait autour en les raillant, et que mesdames Thiers et Favre, au milieu de leurs dames d'honneur, applaudissaient de leur balcon les outrages de la tourbe versaillaise. Les hommes de ligne capturés furent massacrés froidement. Notre vaillant ami, le général Duval, le fondeur en fer, fut fusillé sans l'ombre d'un procès. Gallifet, le souteneur de sa femme, si notoire pour ses exhibitions éhontées aux orgies du Second Empire, se vante dans une proclamation d'avoir dirigé le meurtre d'une petite troupe de gardes nationaux avec leur capitaine et lieutenant, surprise et désarmée par ses chasseurs. Vinoy, le fuyard, fut nommé grand-croix de la Légion d'honneur par Thiers, pour l'ordre donné à tous d'abattre chaque homme de ligne pris dans les rangs des fédérés. Desmarets, le gendarme, fut décoré pour avoir traîtreusement, comme un boucher, mis en pièces cet esprit élevé, le chevaleresque Flourens, qui avait épargné les têtes du gouvernement de la Défense le 31 octobre 1870. Les « détails réconfortants » entre guillemets de cet assassinat furent triomphalement développés par Thiers à l'Assemblée nationale. Avec la vanité parvenue d'un Tom Pouce parlementaire admis à jouer le rôle d'un Tamerlan, il dénia aux rebelles à sa petitesse tout droit de la guerre entre civilisés jusqu'au droit de neutralité pour les ambulances. Rien de plus horrible que ce singe autorisé pour un moment à donner plein essor à ses instincts de tigre, comme Voltaire l'avait imaginé d'avance. Après le décret de la Commune du 7 avril, ordonnant des représailles et déclarant qu'il était de son devoir, ouvrez les guillemets, de protéger Paris contre les exploits sauvages des bandits de Versailles et de rendre œil pour œil et dent pour dent, fermez les guillemets, Thiers n'arrêta pas le traitement barbare des prisonniers, les insultant bien plus dans ses bulletins. Ouvrez les guillemets. Jamais, écrit-il, figure plus dégradée que la basse démagogie n'affligèrent les regards des honnêtes gens, fermez les guillemets. Honnête comme Thiers lui-même et ses « élargis » entre guillemets ministériels. Toutefois, pendant quelque temps, les fusillades de prisonniers furent suspendues. À peine, pourtant, Thiers et ses généraux des Cent-Briseurs furent-ils avisés que le décret de la Commune sur les représailles n'était qu'une menace vaine, que même leurs espions de la gendarmerie, attrapés à Paris sous le déguisement de gardes nationaux, que même les sergents de ville pris avec des bombes incendiaires sur eux étaient épargnés. Note de bas de page. Déjà, dans sa lettre à Kugelmann du 12 avril 1871, Marx parle de ces erreurs fatales du comité central. Fin de la note de bas de page. À peine pourtant, Thiers et ses généraux des Cent-Briseurs furent-ils avisés que le décret de la Commune sur les représailles n'était qu'une menace vaine, que même leurs espions de la gendarmerie attrapés à Paris sous le déguisement de gardes nationaux, que même les sergents de ville pris avec des bombes incendiaires sur eux étaient épargnés, que les fusillades en grand des prisonniers furent reprises et poursuivies sans interruption jusqu'à la fin. Des maisons où des gardes nationaux s'étaient réfugiés furent entourées de gendarmes, arrosées avec du pétrole, ouvrez la parenthèse, lequel apparaît ici pour la première fois dans cette guerre, fermez la parenthèse, et puis allumées. Les cadavres carbonisés enlevés ensuite par l'ambulance de la presse, établie au terne. Quatre gardes nationaux s'étant rendus à une troupe de chasseurs à cheval à la Belle Épine, le 25 avril, furent ensuite abattus, l'un après l'autre, par le capitaine, un homme bien digne d'appartenir au corps de Galifet. Une de ces quatre victimes, laissée pour morte, Scheffer, revint en rampant aux avant-postes parisiens et déposa sur ce fait devant une commission de la commune. Quand Tolain interpella le ministre de la guerre sur le rapport de cette commission, les ruraux noyèrent sa voix et interdirent à Leflot de répondre. C'eût été une insulte à leur « glorieuse » entre guillemets armée que de parler de ces hauts faits. Le ton désinvolte sur lequel les bulletins de Thiers annonçaient la tuerie à la baïonnette des fédérés surpris dans leur sommeil au moulin Saquet et les fusillades en gros de Clamart irrita les nerfs même du Times de Londres qui n'est pas hypersensible. Mais ce serait une plaisanterie aujourd'hui d'essayer de dénombrer les atrocités purement préliminaires commises par les bombardeurs de Paris et les fomentateurs d'une rébellion de négriers protégés par l'invasion étrangère. Au milieu de toutes ces horreurs, Thiers, oublieux de ses jérémiades parlementaires sur la terrible responsabilité qui faisait fléchir ses épaules de nain, se vante, dans ses bulletins, du fait que, ouvrez les guillemets, l'Assemblée siège paisiblement, fermez les guillemets, et démontre par ses perpétuels festins, tantôt avec les généraux des sans-briseurs, tantôt avec les princes allemands, que sa digestion n'est pas le moins du monde troublée, pas même par les spectres de Lecomte et de Clément Thomas.